BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est parti pour vos deux heures d'expertise quotidienne. Chaque jour, BFM Business se met à votre service avec BFM Patrimoine pour vous permettre de gérer au mieux vos placements. Mais on n'oublie pas non plus de suivre avec attention l'actualité économique. Toute l'info éco avec Claire Checaglini.
BFM Business, l'info éco.
Présentation du plan eau par Emmanuel Macron. À la mi-journée, le chef de l'État se rend dans les Hautes-Alpes pour dévoiler les 50 mesures qui permettront de passer l'été prochain et de donner un cap pour 2030. Ces annonces sont d'autant plus attendues que d'ores et déjà, 80% des nappes phréatiques ont un niveau en dessous de la normale. Les sociétés de l'eau réclament, elles, 15 milliards d'euros sur 5 ans, chiffre avancé par la déléguée générale de la Fédération des entreprises de l'eau pour adapter la gestion de la ressource au réchauffement climatique. La planète. Aurélie Colas était ce matin l'invité de Good Morning Business. Les 27 ont finalement trouvé un compromis cette nuit. L'UE devra produire 42,5% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le texte classe notamment la biomasse comme verte. Pourtant, l'utilisation du bois destiné à la production d'énergie est dénoncée par les ONG environnementales. Quant au nucléaire qui divisait les 27, il n'a été finalement classé ni vert ni fossile. Façon de trouver un compromis entre Paris et ses opposants. L'action H&M boostée par les bénéfices surprises du géant de l'habillement au premier trimestre de cette année. Elle grimpe de plus de 8% ce matin. Les analystes prévoyaient des pertes de près de 90 millions d'euros. Finalement, le numéro 2 mondial du secteur a enregistré un bénéfice d'exploitation, bénéfice modeste de 48 millions d'euros. En France, les 140 salariés de Buitoni à Caudry dans le Nord sauront ce matin si leur usine ferme définitivement ou non. Nestlé, le propriétaire de la marque, a réuni les syndicats. Le site est déjà à l'arrêt. Buitoni avait enregistré des pertes importantes suite à la baisse des ventes de ses pizzas surgelées après l'affaire des contaminations à la bactérie E. coli. Le problème était survenu précisément à Caudry. Country Garden enregistre une perte record de plus de 800 millions d'euros l'an dernier sur ses ventes. C'est la première fois depuis 2007 que le premier promoteur immobilier chinois est déficitaire.
Merci beaucoup Claire. Claire Checaglini qu'on retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous tout de suite, il est l'heure de se connecter au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et comme chaque matin, on retrouve Antoine Larigauderi, du vert derrière vous Antoine.
Oui, regardez comme on est bien. CAC 40 sur un plus haut d'une vingtaine de jours. On regagne quasiment 7% en 8 séances. Une remontée en ligne droite, un CAC 40 qui, bah, alors si on regarde les niveaux de l'indice parisien, si on regarde l'indicateur de volatilité VIX du côté des États-Unis, bah, semble avoir totalement tourné la page des turbulences bancaires. Ça semble être plus le problème du moment et on semble avoir évacué cette prime de risque sur les marchés. Et on repart en nette hausse avec les mêmes ingrédients techniques tous les matins, c'est-à-dire globalement des gains la veille, un peu d'hésitation en avant-marché, puis une heure avant l'ouverture des cotations, là c'est parti et un CAC 40 qui donnait de nets signaux haussiers. Là, on gagne 0,87%, 7249 points. On gagnait même un petit peu plus de 1% tout à l'heure. Donc là, il y a de la conviction. Il y a du volume aussi. C'est pas excessif non plus, mais on tourne autour des 400 millions d'euros d'actions négociées au terme de la première heure. Et du côté des autres places financières, ben, on a du vert, hein, plus 0,96% pour le DAX à Francfort et plus 0,93% pour l'Eurostock 50. Les deux catalyseurs. Alors, premièrement, c'est une très bonne nouvelle du côté de Wall Street. Le Nasdaq repasse en bull market. C'est-à-dire qu'au terme de la clôture d'hier, qui s'est terminée sur une belle hausse, on a un indice riche en valeurs technologiques qui reprend 20% depuis ses plus bas de décembre. Donc on sent véritablement que les GAFAM ont mené tambour battant le rallye ces derniers jours et que la conjoncture est vraiment bien, bien meilleure maintenant pour les valeurs de croissance américaines. Deuxième catalyseur, l'inflation en Europe qui semble vouloir se tasser. On attend les chiffres définitifs de l'inflation pour l'ensemble de l'Allemagne à 11h. Mais d'ores et déjà, on a des premiers indicateurs régionaux qui nous montrent qu'il y a une très très nette décrue sur le mois de mars, notamment grâce au prix de l'énergie. Même tendance en Espagne d'ailleurs. Mais attention, ces chiffres sont en demi-teinte parce que l'inflation core, l'inflation vraiment à la racine hein, de ces flambées de prix, elle reste quand même relativement tenace. Donc il va falloir faire la part des choses. Mais enfin, globalement, on a un nombre de signaux encourageants ce matin qui nous permettent de bien nous comporter en bourse. À noter la plus forte hausse du CAC 40 pour l'instant, c'est Unibail Rodamco Westfield qui gagne 4,2% à 49,18€. On a des valeurs cycliques ensuite, Alstom qui gagne 2,36% à 25,18€, le secteur bancaire qui poursuit son redressement, puis alors bien plus 2,4% pour BNP Paribas à 54,66€ et Société Générale plus 2,5€ à 20,64€, puis un peu de tech aussi dans le siège du Nasdaq, Téléperformance par exemple qui gagne 2,11% à 222,20€. À la baisse, bon, pas de miracle, hein. Les valeurs défensives qui sont mises de côté, Danone moins 0,5 à 56,75, Sanofi moins 0,59 à 140, et puis L'Oréal moins 0,37%, 401,40€. Le CAC 40 donc plus 0,85% à 7248 points. Ça s'est un tout petit peu tassé sur les taux d'intérêt 10 ans, justement après ses premières indications en matière d'inflation en Allemagne et en Espagne. Puis l'euro face au dollar forcit encore, on est à 1,0859, Cédric.
Merci beaucoup Antoine Larrigaudry, qu'on retrouve tout à l'heure à 11h pour continuer le suivi de cette séance. Donc restez attentifs Antoine, et on se retrouve tout à l'heure au début de la deuxième heure de BFM Patrimoine, où on continue à s'intéresser au marché actions.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Grâce à Denis Scherrer qui est en ligne avec nous depuis des mid-cap. Bonjour Denis.
Bonjour Cédric.
Vous nous proposez un focus sur Vetoquinol ce matin ?
Oui, exactement. Alors Vetoquinol, une petite carte d'identité, c'est un laboratoire de santé animale créé en 1933 dans le nord-est de la France par Joseph Fréchin. La famille Fréchin est d'ailleurs toujours aux manettes et détient encore deux tiers du capital. Donc c'est une histoire de groupe familial comme on les aime beaucoup. Et si on voulait vous en parler ce matin, c'est que le cours de bourse a baissé de 37% sur un an. Et donc, ça me paraît être le bon moment pour se réintéresser à cette valeur qui bénéficie de perspectives de croissance extrêmement solides. Alors, peut-être un petit flashback s'impose. Le groupe avait réalisé en 2021 un exercice exceptionnel avec une croissance organique de 14% et un bond de plus de 50% de son résultat opérationnel, puisqu'en fait, en sortie de confinement, il y avait eu un boom des animaux de compagnie avec les personnes en Europe et aux États-Unis avaient acheté beaucoup d'animaux de compagnie, et donc ça avait boosté l'activité de tous les laboratoires de santé animale. Et après cet exercice 2021 exceptionnel, le groupe a connu un exercice 2022 beaucoup plus décevant, je dirais, avec des résultats qui ont été publiés la semaine dernière et qui se sont avérés globalement stables, avec un résultat opérationnel en baisse de 2%. Aujourd'hui, la dynamique nous paraît bien meilleure et on devrait retrouver les très beaux fondamentaux de ce secteur d'activité.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête. Qu'est-ce que vous relevez d'autre sur ce dossier ?
Eh bien, aujourd'hui, la croissance du marché de la santé animale, qui est de l'ordre de 3 à 5% par an, se confirme et devrait revenir sur ces rythmes de croissance sur les années à venir. Et Vetoquinol va parfaitement en profiter du fait de l'évolution de son positionnement. C'est-à-dire que la société est de plus en plus positionnée aux États-Unis, qui est le grand marché de la santé animale pour les animaux de compagnie. Et en plus, il a fait évoluer son offre produit vers plus de produits antiparasitaires, dermatologiques et de mobilité, et réduit son exposition aux antibiotiques, qui sont un segment un peu moins dynamique, qui va permettre au groupe de retrouver une croissance de plus de 5% sur les années à venir et de faire croître progressivement son résultat opérationnel.
Voilà donc pour ce focus apporté ce matin sur Vetoquinol. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau parcours boursier, valorisation, on cote 86,50 ce matin, on est en belle hausse hein, de 2,25. Qu'est-ce que vous pensez de cette valo et surtout quel objectif de cours vous nous proposez ?
Voilà, l'autre vraiment point important sur le dossier, c'est qu'après une baisse de près de 40% sur un an, la valorisation nous paraît basse, à la fois par rapport à l'historique, mais également par rapport au secteur. La société est valorisée un peu plus d'une 1,5 fois son chiffre d'affaires, quand son concurrent Virbac est valorisé plus de 2 fois le chiffre d'affaires, et que les transactions dans le secteur se sont conclues plutôt autour de 4 fois ces dernières années. Donc ça nous conforte dans notre opinion à l'achat, et nous avons un objectif de cours de 121 € sur la valeur.
Voilà donc l'éclairage proposé par Denis Scherrer et IDMidCap ce matin sur Vetoquinol, 86,50, donc plus 2,25 pour le titre ce matin. Objectif de cours, donc 121 €, recommandation d'achat. Merci beaucoup Denis, bonne séance sur le marché haussier pour le moment. On s'approche du pourcent de progression, 0,91% de mieux qu'hier soir, 7252 points pour le CAC.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et pour parler conjoncture, on est en ligne avec Bastien Druch et CPRAM. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. L'actualité de ce jeudi est d'abord européenne avec l'indice de sentiment économique. Ça tombera tout à l'heure à 11h. Qu'est-ce qu'on va en attendre? On a déjà eu dans la zone plusieurs indicateurs de sentiment économique qui n'étaient pas mirifiques.
Ben oui, c'est exactement ça. Donc à 11h, on aura les indices de sentiment économique pour le mois de mars en zone euro, donc à la fois les entreprises et les ménages. On a déjà eu l'estimation préliminaire pour le sentiment des consommateurs qui montrait une légère rechute alors qu'il y avait plutôt eu une amélioration sur les 6 derniers mois. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que le sentiment des consommateurs reste très dégradé aux alentours des niveaux qui étaient observés au pire de la crise financière de 2008 ou encore au pire de la crise de la zone euro. Et ça, c'est vraiment très vraisemblablement causé par l'inflation très élevée actuellement en zone euro. Alors, ce qui est particulièrement notable en Europe, c'est la divergence avec les enquêtes auprès des entreprises qui se sont dégradées elles aussi en 2022, mais qui sont restées au-dessus des moyennes de long terme, en bonne partie parce que les carnets de commandes restaient assez remplis. Et là, ce qui sera intéressant de regarder donc dans cette publication à 11h, c'est si on voit un peu de soulagement dans les secteurs les plus intensifs en énergie, après la baisse des prix de l'énergie qu'on a pu observer ces derniers temps sur les marchés de gros.
Voilà donc pour ces questions européennes, et on suivra tout ça bien évidemment à 11h, décryptage à suivre dans Regards croisés tout à l'heure. Et puis cet après-midi, on a pas mal de chiffres aux États-Unis, dont un PIB. Qu'est-ce que vous allez plus particulièrement surveiller, Bastien ?
Oui, donc là, pour les États-Unis, il y a un paquet de chiffres qui va être publié cet après-midi. Il y a effectivement la troisième estimation du PIB pour le quatrième trimestre. Donc là, il devrait y avoir assez peu de surprises. On devrait avoir un chiffre qui tourne aux alentours de 2,7% en trimestre sur trimestre annualisé. Mais dans cette publication, ce qui sera intéressant, c'est la publication des chiffres de profit des entreprises au niveau agrégé. Donc ça, on l'a pas encore eu pour le quatrième trimestre. On a vu sur le reste de l'année 2022 des profits après impôts qui sont maintenus à des niveaux historiquement élevés. Et ce qu'on pourrait voir, c'est le début de la baisse des profits des entreprises aux États-Unis, notamment à cause d'un essoufflement de la demande, mais aussi à cause des fortes hausses de coûts qui vont venir rogner un petit peu sur les marges. Et puis les autres publications qu'il y aura aussi cet après-midi, c'est comme toutes les semaines, les nouvelles inscriptions à l'assurance chômage. Et donc ça va être scruté de très très près, parce que on veut savoir si les événements récents aux États-Unis ont conduit à des destructions d'emplois sur les derniers jours.
Voilà le regard de CPRAM. Autant de thèmes qui sont également abordés dans votre ouvrage commun avec Juliette Cohen et Laetitia Baldeschi. Bastien, son titre « Turbulence dans l'économie mondiale », c'est aux éditions De Bock Supérieur. Merci beaucoup Bastien.
Merci.
Bonne journée sur les marchés. Le CAC 40 qui pour le moment garde la cote, plus 0,91%, 7252 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marc Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
On parle résidence secondaire, des achats de moins en moins finançables. Désormais, plus de 70% des projets sont exclus, selon une étude de Préto, le courtier, qu'on vous révèle ce matin en exclusivité.
Bah oui, s'il y a bien une catégorie de projets immobiliers qui semble aujourd'hui bel et bien pénalisée par le durcissement d'accès au crédit, bah c'est bien les achats de résidence secondaire. Alors selon Préto, vous le disiez, hein, donc 70% qui passent pas, donc seuls 30% des demandes en la matière qui sont encore finançables. Alors, concrètement, nous dit le courtier, la moitié des dossiers qui passaient, j'ai envie de dire, avant le début de la remontée des taux, avant le printemps dernier, avant le début de la remontée des taux, ne passent plus aujourd'hui. Et c'est normal, en fait, parce qu'on est sur une catégorie de biens et d'achats et de projets immobiliers qui est quand même pas rentable du tout aujourd'hui. Vous savez très bien que quand vous faites un investissement locatif, et Dieu sait que l'investissement locatif, lui aussi, est impacté hein, par les durcissements des conditions d'accès au crédit, mais quand on fait un investissement locatif, pour le coup, on touche des loyers
ouais.
En face. Là, quand vous faites une pure résidence secondaire, bah là, en l'occurrence, vous avez rien du tout. Et souvent, vous avez en plus la charge de votre résidence principale, ce qui explique effectivement cette différence. Donc, on voit donc que finalement, sur un an, on a plus 50% de dossiers non finançables dans la résidence secondaire, alors que pour tout le reste, c'est-à-dire investissement locatif plus résidence principale, le nombre de dossiers non finançables n'augmente que, je mets d'énormes guillemets, de 30%, ce qui est quand même énorme. Hein. Ouais. Mais on voit bien la différence quand même.
Et pourtant, la demande ne faiblit pas.
C'est ça, en fait. Ça faiblit un peu, mais franchement, pas des masses. Parce qu'en fait, on est en baisse sur la demande d'achat de résidence secondaire de 10% par rapport à la période précédente, cette période complètement dingue à partir du premier confinement et là jusqu'au printemps de l'année dernière. Mais le truc, c'est que c'est en baisse de 10% par rapport à cette période. Mais pendant cette période complètement dingue, on avait augmenté de quasiment 40% la demande. Donc en réalité, ça veut dire que la demande, elle est encore plus dynamique aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise sanitaire. Donc il y a une demande qui reste. Et pour cause, je ne vais pas vous refaire le sketch de ce qui est devenu aujourd'hui la résidence secondaire. Au-delà du fait, on en parlait tout à l'heure en antenne avec Christophe Capelli, mais au-delà du fait qu'on peut ponctuellement la mettre à la location, notre résidence secondaire, c'est qu'elle est devenue aujourd'hui, vous savez, ce fameux truc de résidence semi-secondaire, semi-principale avec le télétravail. Et donc, de fait, cette envie de résidence secondaire, on se dit que ce n'est pas qu'un luxe, en fait. Mmh. C'est aussi pour vivre autrement dans notre quotidien. Donc, on voit que la demande reste quand même relativement forte. Alors, les régions les plus recherchées, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, la région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ici, je vais quand même casser une petite idée reçue, parce que ça fait quelques semaines que j'arrête pas de vous dire que nous, les Parisiens, on est responsables.
On pourrit tout le monde.
En ce qui concerne, alors, sans doute sur l'habitation et résidence principale, machin, mais en fait, sur la résidence secondaire, dans ces régions dont je viens de vous parler, ces quatre régions dont je viens de vous parler, eh bien, en fait, ce qui drive le marché de la résidence secondaire, j'insiste bien là-dessus, c'est la demande locale. En fait, ce qu'appelle Préto la demande intra-régionale, c'est 60% environ dans ces quatre régions de la demande qui est de la demande intra-régionale, des gens qui veulent acheter leur résidence secondaire dans la même région. Alors il y a une grosse exception parce qu'il y a l'Île-de-France qui est finalement la cinquième région la plus recherchée pour la résidence secondaire aussi, mais alors là pour le coup la demande intra-régionale elle est ultra minoritaire puisqu'en gros 80% de la demande en matière de résidence secondaire, ce sont des biens qu'on va chercher en dehors de la région Île-de-France. Et puis alors les franciliens, là ça change pas, quelle région les intéresse. Donc dans l'ordre, hein, d'abord la Normandie, ensuite la Nouvelle-Aquitaine et ensuite la Bretagne. Et dans ces trois régions, ça concentre, juste ces trois régions, pas loin de 35% de la demande des franciliens pour une résidence secondaire.
C'est fini la résidence secondaire à Vaucresson qui prévalait au début du siècle dernier.
Maintenant, c'est votre domicile, en fait. C'est ça, le truc.
Allez, on accueille maintenant Christophe Capelli. Bonjour, Christophe.
Bonjour.
Pour le groupe Capelli. Alors, on va un peu regarder avec vous ce qu'il y a derrière ce ralentissement de l'offre immobilière. Quelles en sont les raisons? Quelles en sont les conséquences? C'est vrai que le marché du neuf, on l'a rappelé, s'effondre. C'est votre business, hein?
Ouais.
C'est sympa pour commencer l'interview. Salut Christophe.
Alors, quelles en sont les raisons, Christophe?
Alors les raisons, en fait, c'est le cumul d'années où déjà la première des choses, c'est que les élus ont fait quand même ce qu'il fallait pour générer une très forte baisse du volume à produire. À partir du moment où ils ont déséquilibré l'offre et la demande, tout naturellement, les terrains ont commencé à exploser. Et s'ils ont explosé, il faut savoir que sur les 20 dernières années, quand globalement par l'évolution de l'inflation plus le tout fait que un bien immobilier entre 2000 et 2020, il a augmenté à peu près de 100%, 100-110%. Ce qui est toujours intéressant de regarder quand même en tête, c'est de se dire, même quand ça se calme, quand on tire un trait sur 20 ans, c'est toujours quand même un investissement très intéressant.
Mais Christophe, en aparté. Le x2, donc le plus 100%, c'est pour la valeur intrinsèque du logement, ou vous nous parlez du foncier là ?
Du logement.
D'accord.
Le foncier représente, en fait, lui a évolué de plus de 200%.
Ouais.
Ah ! Quand la construction a augmenté que de 50%. Donc le réel problème de l'augmentation est le foncier. La deuxième chose qui est indéniable, c'est que s'il y a une conjonction de mauvaises nouvelles, vous avez le Covid qui arrive, une pénurie encore plus forte, vous avez en même temps une explosion des matières premières, hein, parce que même si les entreprises de travaux, nous promoteurs, on dit que nos entreprises de travaux ont abusé, mais dans la réalité aujourd'hui on se rend compte qu'elles ont des marges de manœuvre limitées. Ceux qui ont pris énormément de marge, mais c'en est indécent, ce sont les producteurs de matières premières au début. Quand à un moment donné, vous êtes dans l'acier et que vous avez un résultat qui fait x4, x5 en une année, c'est qu'il y a quand même quelque chose.
Mmh.
Voilà. Ça fait qu'à un moment donné, tout a explosé. Et en même temps, vous avez une très légère petite conjonction qui est l'augmentation des taux d'intérêt. En fait, la baisse des taux d'intérêt pendant des années, elle venait gommer discrètement tout ce qui augmentait. C'est-à-dire qu'on rendait toujours solvable du jour au lendemain le client. La réalité aujourd'hui, c'est que vous prenez un client à 250 000 euros. Vous tapez, vous savez, sur un site d'emprunt, puis vous regardez, de courtage. C'est très intéressant de regarder. Le client, il avait, pour un 250 000 euros, il mettait 25 000 euros d'apport. Il restait 225 000 à faire financer. Il avait en face besoin de 1120 euros à rembourser. Donc, 3360 euros.
C'était sa mensualité.
C'était sa mensualité. Aujourd'hui, le même client, c'est plus 1120, c'est 1280. C'est-à-dire qu'il a besoin de 500 euros de plus de revenus.
Par mois.
Par mois. 15%.
Il faut qu'il aille demander à son patron.
Ça marche pas forcément. Mais soit dit en passant...
Demander, si. C'est obtenir qui est plus compliqué.
Oui, c'est ça. Demander, c'est possible. Obtenir, c'est compliqué. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, Christophe. Mais le problème, justement, quand on parle des taux d'intérêt là, il faut quand même rappeler qu'en réalité, finalement, ce qui est pas normal, c'est le prix. C'est ça le truc. C'est que moi, j'arrête pas de dire
le
attention.
Prix de vente.
Oui, c'est ça.
Bien
c'est
sûr.
L'envolée des coûts du foncier, les décisions des élus locaux de ne pas construire et donc finalement de renchérir les prix du foncier par la pénurie, en fait. Et parce que là, on n'arrête pas de dire oui, c'est plusieurs choses qui se sont percutées. Et effectivement, le dernier élément en date, ça reste la hausse des taux d'intérêt. Mais à la rigueur, ça, c'est presque normal, logique, compte tenu du niveau d'inflation. Il faut à chaque fois le répéter. C'est ce qui est problématique et ce qui pose un véritable souci pour toute la filière et pour la construction de logements, c'est pas tant la hausse et la normalisation de la politique des taux, c'est ce qu'on fait vraiment de manière quasi dramatique sur la capacité à construire.
Ce qui s'est fait sur les 10 dernières années, ou je dirais les 6 dernières années où ça a été encore plus marqué, où vous avez... Si je peux bien, souvent quand je viens ici, je dis c'est trop cher, on vend trop cher. Mais en fait, on vend trop cher pour une raison simple, c'est que la normalisation des taux, c'est 3-4%. On a eu ça pendant des années. Donc quelqu'un dernièrement m'a dit, mais oui, mais moi, à 4%, c'était taux normaux, ça doit bien marcher. Oui, sauf que nous, entre-temps, on a augmenté les prix. Quand on vendait à 4% à l'époque, c'était quelque chose à 4500 euros, par exemple, du mètre. Aujourd'hui, on a 5002. Et on oublie souvent quelque chose, les promoteurs, qui est quand même fondamental, c'est que le client final, d'accord, il ne cherche pas un prix au mètre carré, il s'en fout. Lui, il veut un nombre de chambres et il veut un remboursement mensuel. Et c'est hyper important.
Marie me brocardait en disant que je vous accueillais mal, en vous disant que c'est votre métier qui partait dans le mur, mais voilà, on fait quand même, on glose sur des chiffres de mètres carrés, de nombre de chambres, mais derrière il y a des boîtes, il y a des emplois. Tout ça, ça commence à sentir un peu le roussi. Enfin, je veux dire, ça va être compliqué pour un promoteur de tenir. Enfin, Marie nous dit, il y en a quelques-uns qui.
Non, mais alors on va être très clair, c'est très compliqué. Très compliqué, à partir du moment où vous avez décidé de faire de la vente traditionnelle en défus ou en Pinel. Vous allez en Pinel, par exemple, vous savez que votre client, quand il va aller voir sa banque va déjà tout faire pour pas qu'il achète. Parce qu'elle va lui expliquer que si elle lui prend ses sous et qu'elle les place, il peut peut-être gagner autant, et ainsi de suite. Faut voir quand même aussi le phénomène. Vous savez, on parle toujours du taux d'usure. Nous, on s'est rendu compte que quand on envoie notre client aller voir sa banque, il y a 8 chances sur 10 pour que ça se fasse
pas. Pour qu'il revienne pas.
Ouais. Non mais c'est un truc, c'est quand même de fou. Donc vous savez, il y en a quand même beaucoup dans le système qui jouent pas le jeu. Il y a beaucoup de banques qu'on citera pas qui ont arrêté de faire des financements, ou alors ils vont faire la résidence secondaire avec le type qui a plein d'argent et qui lui prend pas un emprunt, mais qui lui le fait, vous savez, une sorte de lombard. C'est-à-dire lui dit je te mets l'argent d'à côté, puis tu me le places et puis voilà. Donc ça c'est facile, ça c'est de la gestion de fortune. C'est pas voilà. Enfin c'est facile, c'est un métier, mais c'est pas corrélé. Pardon, excusez-moi.
Non mais c'est bien dit, Christophe.
Donc il faut savoir une chose, c'est que notre métier aujourd'hui et dans nos entreprises, nous, on a une chance dans notre malheur, c'est qu'on s'est spécialisé depuis 4 ans, 5 ans dans la vente en bloc institutionnelle. Et ces institutionnels qu'on côtoie, qui sont Action Logement, Caisse des dépôts et ça, ces grands opérateurs.
Ouais, mais alors Christophe, pareil, moi je regarde les derniers chiffres de la FPI, de la Fédé des promoteurs immobiliers, sur les ventes aux grands institutionnels et aux bailleurs sociaux, je vois une baisse de 37% en fait. Donc,
Oui, parce que le volume a baissé. C'est le volume global. À un moment donné, en plus, la vente se passait plutôt bien. Donc, les promoteurs sont retournés sur du diffus. Puisqu'il faut savoir que quand même, quand vous allez voir votre bailleur, enfin, cet institutionnel, il essaie quand même un peu d'optimiser
gratter,
son achat.
Ouais,
voilà, on va dire poliment. Mais c'est normal. Chacun est dans son rôle.
Vous donc, faire un peu le kiki, quoi.
Un tout petit peu.
Donc, nous, on a une chance. C'est qu'on travaille beaucoup avec eux depuis longtemps. Et on arrive à un point où on fait des livraisons avec moins d'une réserve par logement, voilà, alors que la moyenne c'est 5-6. Voilà. On essaye de se démarquer. Donc, notre gestion pour notre groupe, nous, pour les 12 mois à venir, majoritairement, c'est quasiment, là, ces dernières semaines, c'est une vente par semaine d'un bloc de 10 à 15 millions sur un institutionnel. Le diffus, c'est comme ça. C'est comme ça.
Donc, on comprend bien que la situation est quand même tendue.
Oui.
Qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Est-ce que vous espérez un redémarrage ou est-ce que vous dites ok, on est plombé pour plusieurs années? Je vais essayer de dire moi, mais je suis pas convaincu.
En se le disant vraiment, rien ne sera réglé avant fin 2024.
Bon. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut
refaire
mettre un peu d'huile dans les rouages?
Moi, je vais vous dire, il y a déjà un premier point qui m'inquiète beaucoup. C'est aujourd'hui, c'est le nombre d'entreprises de travaux qui nous appellent. Il y a un an, c'est nous qui écrivions des lettres de motivation pour qu'ils veuillent bien nous faire une réponse. Aujourd'hui, vous n'avez pas un programme, vous avez au minimum 6, 8, 10 gros maçons qui vous sollicitent et qui vous envoient des messages le soir pour vous dire « je le veux ». Il faut savoir que à moins de 6 mois, et alors un pays par exemple où les statistiques sont sorties il y a 2 jours, ils sont très clairs. Au Luxembourg, 44% des entreprises n'ont plus de carnet de commandes à 3 mois.
Dans ce secteur.
3 mois, dans ce secteur d'activité. La France, on ne dit rien, mais c'est pas mieux. Si c'est mieux, c'est 6 mois maximum.
Ok, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça redémarre?
Si je peux bien, ça veut dire que 20% des boîtes du bâtiment vont exploser en vol à la fin de l'année.
Est-ce qu'il y a une mèche qu'on peut allumer pour que...
Oui. Il y a 2-3 mèches. Un, que les taux arrêtent de monter.
Mais ça...
Ouais, bon.
On y arrive.
Ouais, on espère.
On espère. La deuxième des choses, c'est qu'il faut à un moment donné que le foncier se détende.
Et oui, mais c'est ça la vraie clé. Comment on fait?
Alors, les solutions, elles sont là en fait. La première solution, c'est à partir du moment où vous avez signé un prix, que vous espériez déjà que ça monte, aujourd'hui on commence à voir, moi, tous les 2 jours, j'ai un collaborateur qui me dit, on a été en négociant un dossier il y a 1 an, le dossier est revenu, le promoteur n'a pas acheté. C'est-à-dire que tous les promoteurs retournent à la négociation foncière. Pour une simple bonne raison, c'est qu'il faut qu'ils baissent leur prix. On fait des remises, on fait des trucs comme ça. Il faut juste qu'on mette en adéquation...
Achète avec ce qu'on vend. Quoi.
Mais oui, bon. La capacité d'emprunt. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est fondamental, c'est la baisse des matières premières. C'est un gros simulacre. Quand on est l'année dernière, décembre 21, l'acier trie à la tonne, 960 euros. Décembre 21. Juin 22, 1450. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur, en dessous de 221, on est passé à 850. C'est-à-dire que ça fait ça. Et tous les stocs qui ont été achetés encore il y a quelques mois, sont encore sur le marché. D'accord? Mais à partir du moment où toutes les entreprises de travaux vont quasiment plus avoir de boulot, vous savez, c'est l'effet papillon.
Ouais, bien sûr.
Moi, il y a...
Donc, vous dire le côté angoissant qu'on stigmatisait un instant, va produire, entre guillemets, un effet favorable, c'est que ça va faire baisser. Enfin voilà, comme il n'y aura plus d'acheteurs, entre guillemets.
Comme il n'y aura plus de boîtes, puisqu'elles ont acheté au prix.
Comme il n'y aura plus d'acheteurs. Je parlais avec un des plus gros opérateurs français qui me dit faut que l'État nous aide. J'ai dit ok, moi je suis pour une chose, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est cette situation générale qui fasse baisser cette augmentation des matières premières qui était totalement fausse. Mais il n'y avait rien à voir. C'est comme quand vous êtes passé en une semaine de 0,75 l'avocat à 1,50. C'est quoi la cohérence des choses? Nous, on avait un problème là-dessus. Et le deuxième problème, c'est le foncier. Et il faut que globalement, on arrive à faire baisser grâce à ça de 10 à 15% les prix.
Ouais. Donc sur le foncier, par exemple? Il faut inverser, par exemple, la fiscalité, se dire qu'en fait,
c'est-à-dire
que plus on garde, plus on paiera d'impôts au moment de la plus-value, quoi.
Il faut rendre liquide le produit.
C'est ça.
Et les élus vont en être conscients. parce que je commence à parler avec eux, ils me disent « Oh, mes taxes de mutation, j'en ai plus !» Ah ben, attendez, et moins 60, moins 70%.
Faut frapper là, ça fait mal.
Oui, non mais c'est terrible, mais c'est ça. Et puis imaginez le nombre d'administrés, on a le même client. Hein. Son administré,
ouais,
c'est mon acquéreur.
Acheteur, ouais.
Merci beaucoup Christophe.
Merci beaucoup.
Christophe Capelli et donc le groupe Capelli qui nous accompagne très régulièrement. Merci Marie, à demain.
À demain.
10h pour 10h10 pour
10h12. 10h12. Voilà. Disons 10h12.
Dans un instant, ce sont nos traders qui se mettent à votre service. Le marché parisien qui reste pour le moment à la hausse. Que vont-ils nous en dire? On se retrouve dans un instant.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Nos traders sont sur le pont pour lire la tendance du jour. Alexandre Baradez chez IG et Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Merci à tous les deux d'être là. Alexandre, comment voyez-vous cette nouvelle séance de hausse? On a l'impression que la correction est derrière nous?
Oui, bonjour Cédric, bonjour Jean-Louis. On est effectivement sur un stress qui diminue nettement. Si on regarde aussi bien sur les marchés européens qu'américains, on est revenu dans des zones de 19 de volatilité. Si on se souvient, c'est la volatilité qu'on connaissait le 8 mars, si vous voulez, hein, la veille du stress bancaire qui a commencé à émerger à ce moment-là sur les marchés américains. Et donc, on a une volatilité qui, après être allée à 30, est retombée à 19 ces dernières heures. Et donc, efface complètement la vague de stress qu'on a connue liée aux banques. Et on a en plus des informations qui sont là depuis quelques jours relativement bonnes, et encore ce matin, sur les questions on voit qu'il y a des tensions qui sont en train de diminuer aussi bien aux États-Unis sur le secteur des services. On a plusieurs indicateurs d'activité dans les services, indicateurs des Fed régionales, hein, qui montrent que la dynamique ralentit dans les services. Or ça, c'est pas mal pour le sentiment, parce que ça veut dire que c'est dans ce secteur des services que l'inflation est la plus forte. Donc si l'activité diminue, ça veut donc dire que la Fed sera beaucoup moins enclin à relever ses taux. Et donc on voit que le marché aime bien, les taux ne sont pas très tendus en ce moment, les valeurs un peu de croissance en profitent. Et puis il y a des vraies bonnes nouvelles sur l'Europe. Ce matin, tout le monde a vu passer ce chiffre sur l'Espagne. On a une inflation annuelle en Espagne qui retombe dans la zone des 3% après être allé il y a quelques mois à quasiment 11%. Donc c'est un sacré décrochage de l'inflation.
Même si on précise, Alexandre, que le gouvernement espagnol, j'entends, s'attend à une grande volatilité de l'inflation malgré tout sur les prochains mois. Hein.
Oui, mais ça, c'est ce qu'on disait quand même avec vous sur le plateau régulièrement, et on redira dans les plateaux qu'on fera ensemble, c'est qu'il y a des effets de base qui vont commencer à se faire sentir de manière très claire désormais. Si on se souvient bien l'année dernière, c'est entre le mois de mars et le mois de juillet que la pression sur les prix des matières premières dans leur ensemble et de l'énergie, notamment pétrole et gaz, était le plus élevé. Et donc, 12 mois après, vous avez ces fameux effets hier, donc les effets de base qui vont commencer à se faire sentir. Et je pense qu'on commence quand même à arriver dans cette phase-là. Donc oui, la volatilité, il y aura de la volatilité sur les chiffres d'inflation, parce que si on regarde en plus l'inflation core en Allemagne, hors alimentation, hors énergie, elle reste quand même assez élevée. On est toujours à plus de 7%. Donc le combat n'est pas gagné, mais vous additionnez ça plus les chiffres qu'on a également sur l'inflation en Allemagne ce matin, dans plein de régions allemandes, on voit que ça ralentit un peu plus sèchement au mois de mars en termes d'inflation, donc le combat n'est pas gagné, mais c'est quand même de très bonnes indications que le pic inflation est là, et que donc, dans un contexte plus fragile pour les banques ou autres, il est évident que les banques centrales vont tenir compte de ça, et c'est ça qui fait que les marchés montent, hein, que les marchés se disent, bon, ben là, on a quand même un degré d'agressivité qui risque d'être un peu moins fort de la part des banques centrales. Techniquement parlant, on en est où sur le CAC? Souvenez-vous qu'il y avait eu le gap, justement, quand la crise bancaire avait commencé, il y avait un gap qui s'était formé à la baisse sur le CAC 40. En gros, on avait clôturé la veille vers 7320, et puis on avait ouvert sous les 7200 points le lendemain de l'avènement de ce stress. Donc, techniquement parlant, le marché pourrait aller chercher des zones de 7300, 7320 points pour combler ce gap. Ce serait une étape, si vous voulez, assez significative. Après, je pense qu'il faut quand même toujours, on peut s'attendre à un risque un peu de consolidation. C'est-à-dire que même si on va chercher ce gap à 7300 et même qu'on va un peu dessus, tout à fait possible qu'on se balade quand même un peu sous les sommets pendant quelques temps. C'est-à-dire que le marché n'arrive pas tout de suite à casser les 7400 et à passer au-delà. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même un des effets de macro qu'on va surveiller aussi, parce que l'inflation qui baisse, c'est une très très bonne chose. Mais il y aura un match clairement qui va se jouer sur les marchés entre d'un côté l'inflation qui baisse, c'est une bonne surprise par rapport aux banques centrales, mais de l'autre côté, ça peut être aussi synonyme d'un ralentissement de l'activité économique. Et ça, à un moment donné, ça peut aussi commencer à faire grincer un peu des dents le marché. D'accord. Mais on est quand même dans notre bon scénario, qui est celui d'une consolidation avant de sortir par le haut. Et donc, voilà, c'est à ça qu'il faut s'attendre dans les mois qui viennent.
Jean-Louis, comment voyez-vous les choses sur ce marché? Est-ce qu'effectivement, on a changé de psychologie?
Oui, c'est vrai. La crise bancaire est déjà derrière nous. Et puis, on a depuis ce que je disais hier, il y a un scénario idéal qui se profile, inflation contrôlée, dynamique de l'économie préservée et pas de récession. Donc, il n'y a pas de raison de vendre. Alors, on ne peut pas dire que ça soit la folie à l'achat, bien sûr. Il y a quand même toujours beaucoup de méfiance. On a une volatilité implicite à 16 sur juin. Ça reste quand même relativement élevé. Mais les facteurs techniques intraday sont haussiers depuis le dernier contre-pied avec la fraude sur les dividendes, qui vraiment semblait un peu du réchauffé quand même. Et le marché, si vous voulez, a ouvert avec un gap à la hausse, maintient une pression sur les vendeurs à découvert. Je ne pense pas que ces pressions soient gigantesques parce que tout le monde est vraiment prudent et je ne pense pas qu'il y ait de très grosses positions. Sur le marché, on observe beaucoup de régularité, les bancaires qui remontent, du coup, les foncières qui remontent, et du trading algo important, beaucoup d'arbitrage, beaucoup de régularité. LVMH qui refait aujourd'hui un plus haut historique. C'est vraiment le plus haut des plus hauts qu'on ait jamais coté sur LVMH. Là, elle a plus 0,9, mais elle a fait un peu plus tout à l'heure. Donc, non, vraiment un marché... On ne voit pas pour l'instant de signes de faiblesse à court terme. Peut-être sous 7050, on aurait à nouveau du doute. Ça serait le signal qu'on a du doute plutôt. Et puis 6950 pour repasser biais vendeur. Pour l'instant, non, c'est vraiment haussier. Où on va, on ne sait pas. Peut-être sous les 7004, sous le dernier plus haut. C'est dans la logique des choses. Quel serait le catalyseur positif? Parce que, encore une fois, on n'a réglé aucun problème. Il y a vraiment rien de vraiment très nouveau. Mais... ça avance dans le bon sens. L'euro-dollar, lui, c'est pareil. D'accord. Profite un petit peu du fait que les États-Unis vont peut-être baisser les taux avant nous. Et ça soutient un petit peu l'euro-dollar qui reste haussier, mais il n'y a pas non plus d'excès de ce côté-là.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez que l'on retrouve très régulièrement. Jean-Louis, on se donne rendez-vous à 11h30 tout à l'heure pour suivre cette séance. Le marché parisien, plus 0,96, 7256 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Attention, danger, écrivent des scientifiques et des stars de la tech dans une vaste pétition dévoilée hier. Ils sont plus de 1000 emmenés par Elon Musk ou encore Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Et ils alertent sur les dangers de l'IA, de l'intelligence artificielle.
Oui, ils disent qu'il faut faire une pause pendant 6 mois. On fait une pause pendant 6 mois. Il faut surtout pas aller au-delà de ChatGPT-4, qui est donc le robot conversationnel d'OpenAI, et geler tous les programmes en cours tant qu'on n'a pas des certitudes sur les effets positifs de l'intelligence artificielle. Voilà ce qu'il nous est dit. Et ils vont jusqu'à imaginer qu'il faut un protocole de sécurité. Alors, soit c'est le secteur qui s'en charge, ou sinon, disent-ils, les gouvernements doivent réglementer, encadrer.
Donc, une forme de moratoire.
Oui, mais là, ça ressemble à un film de science-fiction, c'est un peu Frankenstein, mais là, non. Oui, c'est la vraie vie. Et le message, c'est n'allons pas trop vite, n'allons pas trop loin. Et pas simplement sur les conséquences sur l'emploi, mais c'est aussi quelles sont les conséquences sur le contrôle de l'information, sur la machine à fabriquer des fake news à grande échelle, même sur nos démocraties. Alors, si on était face à des rétifs du progrès, bon, mais là, on est face à quand même plus de 1000 personnes qui sont tous des défenseurs de la technologie, du progrès technique.
Mais parce qu'il n'y a pas que ChatGPT. Hein. On a non, tous vu ces photos du pape François avec une doudoune hyper à la mode qui ont été intégralement créées par l'IA.
Et là, on se trouve face à des gens qui sont des promoteurs du progrès technique. Il y a des chercheurs du MIT, des chercheurs du CNRS, il y a des start-up, il y a tous les ingénieurs de Google, Facebook, Microsoft. Elon Musk dit, attention, l'IA, c'est potentiellement une arme atomique. Ouais.
Voilà. Mais il y a un vrai sujet où, comme vous le sous-entendiez, c'est les tisserands qui veulent pas du métier. Enfin, c'est.
Eh ben non, là on a une problématique nouvelle. Depuis l'histoire des robots tuent nos boulots, on sait que l'histoire a démenti tout ça. C'est valable depuis l'Antiquité, à l'époque où on met des chevaux à la place des esclaves. Les pays les plus robotisés sont ceux qui ont le taux de chômage le plus bas. Si la France veut de l'industrie, il faudrait qu'elle automatise à tour de bras, qu'elle robotise à tour de bras. Jusqu'ici, en fait, on mettait un bras articulé pour remplacer un bras humain. Qui va tourner des boulons sur une chaîne de montage ou alors qui va porter des palettes dans un entrepôt. Très bien. Là, on est face à une technologie qui, d'un coup d'un seul, partout dans le monde, peut faire qu'une intelligence au silicium remplace une intelligence carbonée. On n'est pas en train de remplacer des bras, on est en train de remplacer des individus intégralement. Parce que tous les bras qu'on a remplacés sont des bras qui ont pu servir à autre chose. Et là, si vous voulez, on se dit, est-ce qu'on a du recul sur un tel phénomène? Et en fait, on n'en a pas, c'est ce que dit cette pétition. Il y a eu cette étude de Goldman Sachs mardi qui dit, voilà, l'intelligence artificielle, elle peut apporter beaucoup de croissance, beaucoup de gains de productivité, des nouveaux emplois, mais quand même, elle menace un quart des emplois des pays développés. Il y a 300 millions d'emplois qui sont éventuellement touchés. Et là, on a eu un rapport d'Europol, l'agence de police européenne, qui dit, mais jusqu'où cette intelligence artificielle peut nous mener. Et on dépasse très largement le cadre de nos boulots, les boulots, les robots. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, n'importe qui peut trouver le système pour fabriquer une bombe grâce à une intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe si la cybercriminalité est accessible à tout le monde? Que l'usurpation d'identité devient un jeu d'enfant, qu'on voit apparaître des intelligences artificielles clandestines, que maintenant vous allez recevoir un mail bidon de votre banque. Alors aujourd'hui, en faisant gaffe, en regardant les détails, on comprend que c'est un phishing. Ah oui, mais ce sera tellement bien fait qu'on ne pourra plus déceler. Voilà. Il y a toutes ces questions qui sont posées. Pour l'instant, si vous voulez, l'intelligence artificielle ne fait que finalement répéter des contenus existants. C'est ce qui a fait dire, peut-être un peu hâtivement, à notre ministre délégué du numérique, ChatGPT, c'est un perroquet approximatif. Le moment de bascule, c'est quand on sort de la quantité pure pour arriver à la qualité pure, et que là, l'intelligence devient générative et qu'elle va réussir à penser par elle-même. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais pour alerter l'opinion, vous avez une poignée de députés français qui ont déposé un amendement au projet de loi relatif au JO 2024, rédigé par ChatGPT. La ville de Montpellier a interdit l'usage de ChatGPT à ses agents municipaux. Après, c'est toujours la même histoire. Le problème, c'est pas la techno est-elle bonne ou mauvaise? C'est évidemment qu'est-ce qu'on en fait. Mais c'est pas exactement pareil que les ludites et les métiers à tisser quand même.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le CAC en hausse d'1,05%.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille maintenant Angélique Delanxin. Bonjour Angélique.
Bonjour Cédric.
On va s'appuyer ce matin, toujours en évoquant le monde du vin, mais sur votre passé, entre guillemets, d'expert boursière, de professionnel de l'univers boursier. C'est votre cas, c'est le cas aussi de vos associés d'Ideal Wine. Et on va essayer de voir justement si le marché des grands vins, il est résilient en cas de crise financière. C'est vrai que là, on a été secoué par les questions bancaires. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette, je sais pas, corrélation ou résilience, je sais pas, à voir.
Disons que les amateurs qui n'ont pas attendu ces turbulences boursières et financières pour considérer le vin comme un actif patrimonial ne se sont pas trompés, déjà. Bon. Donc ça, c'est premier point. Deuxième point, c'est vrai qu'avec Cyril Jomant et Lionel Cuenca, nous avons créé Ideal Wine en 2000. Donc notre expérience boursière, elle est encore précédente. Elle date un petit peu, mais c'est vrai qu'elle nous a servi de socle pour mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent aujourd'hui aux amateurs de gérer leur cave de la même manière qu'on peut gérer un patrimoine.
Ça veut dire que vous avez des outils qui permettent de faire ça?
Alors déjà, la plateforme elle-même d'enchères qui permet d'acheter et de vendre des grands crus. Mais surtout, ce qui a été très innovant au départ, c'était cette cote des vins qui a été créée, qui permet aujourd'hui à un amateur, qui vous permet de ressortir de votre cave une bouteille ancienne et d'en connaître sa valeur. Parce qu'il existe beaucoup d'outils aujourd'hui pour connaître le prix d'un vin très récent qui sort de chez le producteur. En revanche, dès qu'on s'enfonce un petit peu dans le temps, c'est vraiment le marché secondaire.
Donc en fait, vous êtes une enchère qui est référent. Enfin, vous proposez une sorte de bourse des vins.
Tout à fait. Oui, c'est vraiment cet esprit avec un certain nombre d'outils à la clé qui sont, alors d'une part, effectivement, cette cote des vins qui permet de donner de la transparence et savoir un peu à quel niveau il faut se positionner pour acheter ou pour revendre. Et puis aussi d'autres outils comme des alertes pour être informé d'un vin présent dans une vente, des alertes à la hausse, à la baisse qui permettent d'arbitrer et d'effectuer des choix de gestion.
Bon, donc vous regardez tout ça et on peut comparer. Alors si on regarde ce marché des grands crus et que on le met en transparence avec la bourse.
Oui, alors c'est vrai que tout dépend de la façon dont la perspective que vous prenez. Quand vous regardez cru par cru sur un certain nombre de grands vins, on voit que l'évolution de la cote a vraiment est très très intimement liée au parcours économique boursier qui peut être enregistré sur les marchés financiers. Par exemple, si on prend la cote de un Cheval Blanc 90 et quand on suit son évolution, on voit que ça a traversé la crise de 2002, crise économique de 2002, la crise financière bien sûr de 2008 avec un énorme affaissement des cours. Ensuite, l'été 2011, cette crise également qu'on a eue sur les marchés en 2011, on a vu un soubresaut. Bien sûr, la pandémie a elle aussi remarqué un cours. Et ensuite, une augmentation très très forte jusqu'à peu près l'été 2022, avec ensuite un affaiblissement des cours.
Et comment on la calcule, cette cote ?
Alors, cette cote, elle est, c'est un algorithme, en fait, qui reprend les résultats d'enchères des principales maisons de vente aux enchères françaises et qui est recalculé chaque semaine en fonction des derniers résultats sur ce que l'on constate sur le marché. Alors, on a ajouté à cet algorithme quelques ingrédients pour compenser le manque de liquidité de certains vins ou de certains millésimes anciens, ce qui permet de donner une évolution.
Une action Air Liquide, elle reste toujours... Enfin, on ne la mange pas, on ne la boit pas, alors que le Cheval Blanc 90, il y a un moment où le stock...
Ça, justement, c'est un élément de valorisation. Ça contribue à valoriser le vin, cette raréfaction croissante des millésimes.
Vous avez évoqué un récent ralentissement des cours.
Oui, tout à fait. On a constaté, en fait, et c'est là où, effectivement, le marché du vin est très connecté à ce qui se passe dans l'ensemble du contexte économique et géopolitique. On a constaté, effectivement, une très forte hausse des cours jusqu'à l'été 2022, portée par le fait que beaucoup de liquidités étaient prêtes à s'investir. Et depuis la fin de l'été, avec la reprise de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, surtout la hausse des taux d'intérêt, plus le contexte géopolitique anxiogène, on a constaté un plafonnement d'un certain cours et même pour certains d'entre eux, une baisse.
Toutes les valeurs, ou plutôt tous les vins sont touchés de la même façon, ou on peut serrer en fonction des noms, des régions, des crus, des années, enfin...
Alors, on a constaté ces derniers mois sur les vins justement qui ont plafonné et qui ont même perdu de la valeur, on a les Big Eight, c'est-à-dire ceux qui avaient le plus performé dans les mois précédents. C'est ceux sur lesquels les amateurs avaient le plus concentré leur convoitise. Donc là-dedans, dans ces Big Eight, on a principalement des vins de Bourgogne, hein, les quatre grands classiques comme Le Roy, Dauvenay, les domaines Rousseau et Roumier, des domaines plus nature comme Bizeau ou Charles Lachaud, et puis dans d'autres régions, Grange des Pères dans le Languedoc, il y avait beaucoup dont les prix avaient explosé, et également dans une autre région, quelle était ?
Vous êtes dans le Rhône, je crois.
Dans la vallée du Rhône, bien sûr, le château Rayas à Châteauneuf-du-Pape, qui a concentré toutes les convoitises.
Et les grands crus aussi. Le reste des grands crus.
Alors, dans le reste des grands crus, c'est là où justement, c'est très intéressant en ce moment. Il y a, on est dans une phase de d'ajustement du marché. C'est difficile de convaincre aujourd'hui les amateurs qui souhaitent vendre leur cave d'accepter une baisse de prix, baisse du prix de réserve. Hein. Le vin, c'est un trésor sur lequel les amateurs qui possèdent des caves en France ont beaucoup de mal à accepter une baisse de prix. Donc il y a des discussions aujourd'hui en cours, les ajustements. Et quand les ajustements se font, là, ça fait apparaître de très belles opportunités pour les amateurs.
Donc il n'est pas trop tard pour rentrer éventuellement sur le marché ?
Au contraire, c'est vraiment un moment de toutes les opportunités quand cet ajustement se fait. Mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, on sent le marché un petit peu crispé. Les taux d'exécution dans les ventes sont inférieurs à ce qu'ils avaient été auparavant parce qu'il y a ces discussions en cours. Donc, une fois que les ajustements se font, oui, pour les amateurs, c'est vraiment temps de rentrer sur le marché. Absolument.
Juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire ? Enfin, est-ce qu'il y a quelques critères clés, une forme de méthode entre guillemets pour choisir le bon?
Oui, alors il y a on l'a déjà évoqué ici, il y a vraiment cinq points à retenir pour bien choisir ces vins. Le premier, c'est évidemment la qualité du millésime, hein, qui est liée au deuxième point, qui est la capacité du vin à se conserver sur le long terme, parce que le vin n'est pas un placement de court terme. Ensuite, on a le talent du vigneron, hein, cette capacité à travailler un terroir. Et puis enfin, la renommée d'un cru qui est confirmée par les bonnes notes qui sont octroyées par les guides. Et il faut ajouter à ça un cinquième critère, c'est la capacité de l'amateur qui va constituer sa cave à bien conserver les vins. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un placement de court terme. Et il faut absolument avoir à la fois une cave conservée dans des bonnes conditions et puis bien sécurisée également.
Merci beaucoup. Angélique de Lynxin et Ideal Wine qui nous accompagne très régulièrement et on a essayé de travailler justement sur cette corrélation ou pas entre les marchés actions et ce monde du vin. À très bientôt.
Merci à vous.
Tout de suite, on jette justement un œil sur les marchés actions.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, Expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Le marché et ce CAC 40 qui progresse d'un 0,8% n'est pas loin des plus hauts du jour. 7264 points, ça marche bien aussi ailleurs en Europe. Soggen, BNPP et Alstom parmi les plus fortes hausses. Danone, Thales et L'Oréal pour fermer la marche. L'Eurodoll à 1,0873.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Nous sommes jeudi et on retrouve donc Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. Votre sujet cette semaine, Jean-François.
La crise bancaire aux États-Unis, plusieurs banques régionales de taille plus ou moins importante ont failli. En Europe, on a eu le Crédit Suisse qui a plongé avant d'être racheté par sa concurrente UBS. En Allemagne, c'est la Deutsche Bank qui attire l'attention. Alors je vous propose de traiter le sujet des crises bancaires, non pas sur la base de l'actualité chaude, mais à froid, avec un prisme particulièrement apprécié des autorités.
C'est quoi le prisme particulièrement apprécié des autorités?
Eh bien, Cédric, lorsque vous faites un placement, sur quoi les autorités, qu'il s'agisse de l'AMF, le gendarme de la bourse, ou la CPR, le gendarme de l'assurance vie, insistent tout particulièrement?
J'ai envie de dire le risque, non? Il y a toujours des avertissements à ce sujet-là.
Parfait, on va donc regarder le sujet des crises bancaires à travers le prisme du risque. Et vous savez, nous, chez Marché Gagnant, on adore ça, parce que le risque, c'est notre dada. Je vous rappelle qu'on préconise aux Français d'investir en bourse. Pourquoi? Parce que leur patrimoine n'en contient globalement pas. Et on leur dit pour autant que quand on investit sur un titre, on peut perdre toute sa mise. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place une méthode pour limiter la perte à 39% par an. Alors par ailleurs, on défend l'idée que le sans risque, ça n'existe pas. Donc, ouvrir un compte en banque, c'est courir un risque. Alors, je vais, pour commencer, distinguer deux types de risques. Je vais définir d'un côté les risques choisis, genre je vais faire du parapente alors que la météo est pourrie, et les risques subis. Alors, question pour Choupinette, est-ce que le risque bancaire est, selon vous, un risque choisi ou un risque subi?
Sur le papier, je dirais quand même plutôt subi, non?
D'accord avec vous. Enfin, le système vous impose d'ouvrir un compte bancaire pour percevoir votre salaire, votre pension et faire vos dépenses. Donc, Choupinette n'a pas le choix. Le système lui impose de porter un risque sur le secteur bancaire.
Oui, enfin, sauf que je soufflais un peu en hésitant parce que finalement, Choupinette, elle a aussi le choix. Donc, c'est un peu un risque subi. Elle peut aller dans la banque qu'elle veut.
Alors, là, je vais un peu moins vous suivre et je vais vous dire pourquoi. En pratique, quand tout va bien, vous avez raison. Sauf que le monde des bisounours n'est pas celui de la vraie vie. Et en pratique, vous êtes un client et vous souhaitez bosser avec une banque. Elle a le droit de vous refuser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe dans ce pays quelque chose qui s'appelle le droit au compte. Alors, pourquoi vous refuserait-on? Parce que vous pouvez être considéré comme étant un client trop risqué. Alors, au passage, on notera une asymétrie forte entre les établissements et les clients. Pourquoi? Parce que les établissements financiers ont des outils pour juger le risque du client, oui. Alors que le client, lui, n'a pas les outils pour juger le risque de l'établissement financier. Il va en fait le choisir, soit en fonction de son histoire personnelle, par exemple, on prend la banque des parents, soit en fonction de la proximité d'une agence, soit en raison d'une politique tarifaire agressive. Bref, pour moi, il n'y a pas de débat, le risque bancaire est, pour les Français, un risque subi.
Oui, mais enfin, un risque subi limité, parce que les autorités sont quand même à la manœuvre, elles sont vigilantes, il y a des critères, des ratios à respecter, non?
Alors, le risque subi, théoriquement, c'est le risque le plus dangereux de tous, car a priori, Choupinette n'en a pas conscience. Alors, en fait, de ça, vous avez raison. Oui, il y a des garde-fous, il y a un gendarme. En France, c'est la CPR, mais comme d'ailleurs la majorité de nos banques sont grandes, elles sont sous la supervision de la Banque Centrale Européenne, donc il y a des règles à respecter. Cela dit, on vient de voir d'ailleurs des banques qui sont en difficulté, qui respectaient parfaitement les ratios réglementaires.
Oui, Bercy est aussi très vigilant sur les sujets bancaires. On les voit s'occuper de la tarification.
Vrai, toutefois, ne soyons pas dupes. Les tarifs bancaires pour les particuliers sont moins chers que pour les entreprises. Mais si aujourd'hui, vous allez voir votre banquier, par exemple, pour lui demander un compte à terme avec la même somme, eh bien, vous aurez moins si vous êtes un particulier que si vous êtes une entreprise. Donc, philanthrope, les banquiers ne le sont pas vraiment. Bref, je considère que l'on a un risque subi et que les autorités sont globalement faiblardes côté information. Voyez-vous, par exemple, depuis la loi PRIIPs, sur le fonds en euros, depuis le texte PRIIPs, sur le fonds en euros, désormais, les assureurs doivent écrire en cas de faillite, le souscripteur pourrait subir une perte financière. Eh bien, dans l'univers bancaire, on a certes une obligation d'information annuelle sur l'existence d'un fonds de garantie des dépôts, mais on se garde bien d'utiliser les mots qui fâchent. Alors maintenant que j'ai dit ça, Cédric, on va quitter deux secondes le monde de la finance pour parler de vous. Vous circulez à vélo et vous subissez subissez un risque environnemental lié notamment au gaz d'échappement. Question toute bête, quand on a conscience que l'on subit un risque, qu'est-ce qu'on cherche à faire ?
Bah, s'en prémunir, j'imagine. Enfin, certains, j'ai testé, pas facile avec les lunettes, mais certains cyclistes choisissent de porter un masque.
Parfait. Et ok, et en matière financière, lorsque l'on cherche à réduire le risque, que fait-on ?
On essaye de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mon bon monsieur, on diversifie.
Eh bien, regardons notre système pour voir son approche. Une grande partie du système français est un système mutualiste. Donc, quand vous ouvrez un compte dans une banque mutualiste, que vous demande-t-on ?
D'avoir des parts sociales ?
Certes. Les montants ne sont pas forcément importants, mais en pratique, vous subissez un risque bancaire sur vos dépôts et en plus, on vous impose de subir un risque supplémentaire sur les parts sociales. Même sujet lorsque l'on vous vend des obligations de votre propre banque. Ça a été particulièrement problématique en Italie lors de certaines faillites bancaires. Mais restons chez nous. Le placement phare, c'est quoi en France ?
Bah, le fonds euro de l'assurance vie.
Eh bien, le fonds en euros de l'assurance vie finance presque autant les banques que l'État. Et naturellement, dans le système français de banque assurance, on finance sa maison mère. C'est d'ailleurs ce qui avait soutenu le système lors de la crise de 2008, mais au prix de quel risque pour le client ? Pour résumer, je dirais qu'on fait subir un risque au client, à Choupinette, qu'on l'informe mal, et qu'au lieu de chercher à minorer le risque, eh bien, on a malheureusement tendance à le concentrer. C'est une vision microéconomique, ce qui ne m'empêche pas effectivement de dire que peut-être que le modèle de la banque française où on mélange banque de dépôt et BFI a sa cohérence.
Ouais, bon, donc du coup, vous ou moi, Choupinette, on doit être inquiet ?
Alors Choupinette, elle doit être consciente et elle doit être informée. Et si elle n'a pas toutes les cartes en main, elle en a toutefois quelques-unes. Moi j'ai une recommandation, si elle considère que le sujet du risque est important, c'est déjà avoir une banque pour ses dépôts et ses opérations courantes et une banque pour ses placements.
Bon, mais ça c'est votre mantra.
Ça effectivement c'est mon mantra. Mais une fois que j'ai dit ça, je peux même aller plus loin. Vous courez un risque sur vos dépôts. Donc veillez à ne pas en rajouter. Évitez de souscrire les obligations émises par votre banque. Tout comme évitez de souscrire le contrat d'assurance vie de son assureur. Ça veut dire en pratique qu'on doit faire en pratique avoir trois établissements et financiers, un pour ses dépôts, un pour ses placements sur assurance vie et un pour son éventuellement pour son assurance vie si on prend une banque assurance. Et là, je vais vous faire une petite remarque où le système un peu se mord la queue, c'est que le plus souvent quand vous ouvrez une assurance vie, on vous impose d'ouvrir un compte de dépôt.
Bon, et sur la bourse, quid des valeurs bancaires ?
Eh bien écoutez, la semaine prochaine j'ai un scoop pour vous, on va passer un ordre d'achat sur Total et moi je vais m'énerver.
Ça, c'est pour
je vais m'énerver, pourquoi ? Parce que Total c'est une valeur de rendement, la dernière fois on nous a fait rajouter Orange, c'est une valeur de rendement, on a Crédit Agricole, c'est une valeur de rendement, d'où on se posera la question, est-ce qu'il est sain qu'on porte un risque sur sa banque et que l'on accroît son risque à travers son portefeuille boursier en investissant sur le secteur bancaire ? On fera donc le débat.
Allez, on conclut très rapidement.
Un mot à l'attention des collaborateurs du secteur bancaire qui conseillent les clients. Pourquoi ? Parce que dans ce secteur, l'actionnariat salarié est très important. Bref, ces gens-là cumulent le risque de dépôt parce qu'ils ont souvent leur compte dans leur banque, leur risque emploi, leur risque épargne parce qu'ils ont investi dans l'entreprise. Évidemment, si c'est à eux qu'on explique que le système est pourri, que vont-ils raconter aux clients ? Alors, je vous le dis très clairement, le risque bancaire existe et je ne suis pas certain que la façon dont il est traité par la France soit optimale.
C'est perfide. Jean-François Filiatre, que l'on retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions. Le CAC, plus 1,09%. On se retrouve dans un instant.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.